Salut YouTube, j'espère que ça va et bonne année 2024, meilleurs vœux, que l'année soit la meilleure possible, que ce soit d'un point de vue ludique ou autrement. Nous on repart pour une nouvelle année de jeux, mais on va repartir un peu en arrière parce qu'on est en 2024, mais on va parler d'abord des jeux que j'ai découverts en décembre 2023, donc le mois passé. Comme d'habitude, pas de ordre particulier au niveau de la préférence, il y aura juste à chaque fois les déceptions, puis les trucs pas mal, puis les tops. Il y aura des 3 ce mois-ci. Ce sera par ordre chronologique, à chaque fois j'utilise comme d'habitude les images que je peux récupérer de la part des éditeurs quand ils font du bon boulot. Sinon, comme toujours aussi, Eric de What's Eric Playing, que je remercie une fois de plus, hein, comme chaque mois, m'a permis d'utiliser certaines de ses photos, que lui fait très belles. Comme d'habitude, là aussi, je vous mets son petit Instagram ou son site dans la barre d'infos. Sinon, en haut à gauche, j'ai toujours du mal, hein, malgré le... Ça fait presque un an maintenant qu'on fait ces vidéos. Comme d'habitude aussi, si vous aimez la vidéo, vous pouvez lâcher le petit pouce qui va bien. Vous pouvez commenter avec vos propres découvertes de décembre 2023 ou votre avis sur les miennes. Vous pouvez aussi partager tout ça, comme d'habitude, je vais pas m'étendre dessus, mais il y a un petit Buy Me a Coffee si vous avez reçu des étrennes que vous savez pas où les mettre et que vous voulez soutenir le travail que je fais, que vous pensez que ça mérite. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vous propose que, sans plus attendre, on parte vers les déceptions.
On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde.
Ce mois-ci, il y a quelques jeux solo, dont 2 qui viennent de la gamme micro de Matago, vous savez, les fameux qui viennent souvent de Buttonshy, même si cette année, Matago, ils ont aussi fait des propositions en interne de plus en plus, hein, ou des rééditions comme Pantémor. Alors, les jeux solo que j'avais précédemment évoqués, c'était plutôt, vous savez, je dis souvent que les jeux de cette gamme-là, c'est assez moyen, qu'il y en a des très ratés, des très bien, mais la plupart sont assez moyens, et je trouve que dans les plutôt réussis, il y avait notamment les jeux solo, les propositions de Scott Helms, notamment, hein, que ce soit Insurmontable ou L'île des prédateurs, et ben la bingo, puisque les deux jeux solo dont je vais parler, c'est des bons gros flops. Alors le premier, c'est celui-là, c'est Convoyeur très spatial, qui est de Lucas Gentry, qui est un gars qui intervient avec plaisir et sympathie sur les forums de BGG pour répondre à pas mal de questions. Alors j'ai fait un épisode de T'as joué à quoi sur le jeu, je vous invite à l'écouter pour un peu plus de détails, mais dans l'idée, dans l'ensemble, je trouve qu'il y a vraiment un système assez intéressant de cartes. C'est souvent le cas avec les Buttonshy, vu qu'ils ont que 18 cartes, ils arrivent à les utiliser de manière intéressante, et là ces cartes, il y a une espèce de transition qui se fait d'un espace à l'autre et où elles acquièrent différentes fonctions. Notamment, il y a des trucs qui peuvent être des améliorations de vaisseaux, d'autres membres d'équipage, tout ça, ça apporte un peu de personnalisation, presque de roleplay finalement à Convoyeur très spatial. Les effets de rencontre, donc il y a rencontre orbitale et interplanétaire, je crois, c'est un peu plus anecdotique, c'est jamais game changer. Et surtout, le problème, c'est que tout tourne finalement autour de la phase de marché, qui est une des phases du tour. Et en gros, c'est cette phase-là qu'on va essayer d'optimiser pour acheter des ressources qu'on va revendre un peu plus tard, plus cher. Donc c'est vraiment juste ça, on va jouer marchand pendant toute la partie, puisque le but, ça va être d'acquérir 2x20 méga crédits pour acheter ce qu'ils appellent des xénocristaux pour gagner, parce que sinon en fait c'est un alien qui là aussi manque un peu d'identité, il a pas vraiment de pouvoir, mais en tout cas on veut essayer d'éviter qu'il nous les prenne, donc le but c'est de les acheter avant que lui les prenne. C'est vraiment dommage parce qu'il y a une vraie promesse, un vrai système, et je sais qu'il y a pas mal d'extensions, peut-être que ça permet en termes de contenu d'enrichir le jeu au niveau de la variété, d'avoir des cartes un peu plus avec un peu plus d'identité, et peut-être de le sortir un peu de cette routine lassante du marché. Mais en attendant, la version Matago, bah je vous la conseille pas, il y a d'autres jeux solo qui sont bien meilleurs dans la gamme. Alors là, avec Factory Funner, on est typiquement dans ce que j'aime vraiment pas, du gros puzzle, pose de tuiles, très très brain, où faut optimiser les poses justement de ces tuiles pour bien gérer l'espace, pour gérer des connexions avec des tuyaux, pour que des fluides aillent d'un endroit à l'autre pour marquer des points, et il y a aussi une question de revenus, et très vite, dans le jeu, il y a le cerveau qui va exploser, alors, en tout cas le mien face à l'impossibilité de faire un truc qui soit un peu satisfaisant. Alors, c'est un jeu de Corne Van Morsel qu'on connaît, qui a fait Habitat, auquel j'ai pas joué, mais qui a été refait par Rosenberg en Nova Luna. Et clairement, il s'est un peu calmé du côté du très très cérébral, très très qui fait mal au crâne. Mais quand même, il y a une espèce de filiation abstraite assez forte dans tous ces jeux-là. Alors attention, moi j'aime pas du tout, ça me fait mal à la tête et je déteste ça, le sentiment de jeu que ça procure, mais ça confère à Factory Funner une espèce de charme quand même. Il y a vraiment une identité de jeu assez forte. C'est une proposition qui est quand même, somme toute, assez radicale, parce qu'il pousse vraiment le truc, vraiment, dans ses retranchements, il l'assume. Rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup de l'essayer, et ça lui donne une identité dont manque beaucoup de jeux. Alors, surtout si vous êtes sensible un peu à ce genre-là, l'optimisation dans la pose de tuiles. Moi, j'avoue que, en termes de sentiment de jeu, j'ai que de la frustration très négative, voire de l'agacement. J'ai pas hésité à demander de l'aide en me disant, mais écoute, là je peux le poser où pour que ça colle à peu près, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête pour ça. J'arrivais pas à voir en fait, moi, quelle était la solution la moins pire, parce qu'il y a plein de calculs à faire. Mais autre point positif, au-delà de son identité forte, c'est que ben, contrairement à par exemple un Calico, ici il y a une vraie cohérence entre le fond, le sentiment de jeu et la forme, puisque, comme le dit le nom, on est dans Factory, une espèce de construction d'usine où on va transférer des fluides. C'est pas vraiment un truc qui paraît amusant à réaliser, il y a un truc très cérébral et tout là-dedans, très mécanique, et c'est cohérent avec le thème et le sentiment de jeu. Et il y a aussi une autre chose que j'aime vraiment comme très court moment dans Factory Funner, c'est le moment où on peut jouer en solo, mais où en multi, on va choisir la tuile. Parce qu'au moment de la placer, on est vraiment dans du pur jeu solo ou coop, encore une fois, on pourrait le jouer en coop, mais on est vraiment face à son petit plateau et essayer d'optimiser le placement. Mais au moment du choix, en fait, tout le monde va révéler sa tuile en même temps, et on peut prendre celle qu'on veut autour de la table. Sachant qu'en plus, bon, on s'en fout un peu, mais il y a une petite mécanique de catch-up. Le premier à prendre va avoir des points négatifs, la dernière personne à prendre va avoir des points positifs. Bref, on s'en fout un petit peu, mais c'est un moment qui est assez fort en tension, parce qu'on est vraiment dans un moment où chacun peut le prendre au moment où il ou elle veut, et on est vraiment dans la tension, on regarde notre plateau, on regarde les tuiles de chaque personne, on regarde les tuiles disponibles, où on va pouvoir les mettre, et quand on a choisi, on se dit que peut-être, en fait, merde, j'aurais peut-être pas dû prendre cette tuile-là, c'était le pire choix de la Terre, parce que je pourrais rien en faire, parce que justement, il y a ce côté un peu d'urgence qui nous force à des fois prendre des trucs qui sont pas optimisés pour éviter en fait de se retrouver avec la dernière tuile. Alors certes ça donne un point, mais parfois c'est vraiment un enfer à connecter et ça fait perdre énormément de points. Alors soyons clairs, moi je suis à peu près incapable d'analyser le meilleur move, souvent je me retrouve avec la dernière tuile, mais ça m'empêche pas d'apprécier ces quelques dizaines de secondes durant lesquelles il y a vraiment quelque chose d'assez fort qui se passe. Donc moi je déteste ça, ce genre de jeu, je déteste mon expérience, je déteste la partie que j'ai fait, je jouerai jamais à ça pour le plaisir, mais je trouve que ça reste cool à découvrir, notamment en multi pour ce petit moment de tension, même si bon, vous pouvez essayer de vous casser la tête un peu sur le mode solo, il y a un mode solo qui est disponible gratuitement dans une ancienne version, je vous mets tout ça en description. Et alors même si pour moi ce serait une forme de torture, je pense que c'est un jeu que j'apprécierais de le faire découvrir pour l'aspect curieux et la forme de radicalité dans sa proposition à des personnes que ça pourrait brancher. Rapidement, une découverte sur Board Game Arena, un flip and ride qui se joue en solo ou à plusieurs, et pour le coup ça n'a pas changé j'ai grand chose. Alors l'idée c'est de charger des camions pour les envoyer rejoindre des entrepôts pour marquer des points, le tout avec des contraintes pour les camions, vous savez, ce camion là on peut mettre que des nombres différents, celui-là on peut les mettre que du plus petit au plus grand, rien de très très original. Le plus chouette dans cette proposition c'est que c'est un jeu en print and play, en fait c'est un flip and ride où c'est des cartes, d'un jeu de cartes classiques qui vont servir à cocher les différents endroits des camions. Alors je sais pas, j'ai pas trop regardé un peu comment ça a été créé, mais j'imagine que c'était peut-être un concours, une contrainte perso que l'auteur s'est imposé d'utiliser ce jeu de cartes classique. C'est toujours un truc que j'aime bien. Mais bon, au-delà de ça, rien de formidable, rien de bien marquant. En plus c'est calculatoire parce qu'on peut tout le temps consulter la défausse, donc se dire ah là ça vaut le coup que je coche ça pour faire ci, pour faire ça, sachant que les cartes servent à la fois à remplir les camions et à se déplacer pour les emmener aux entrepôts, et que quand un camion est parti, bah on peut plus le remplir. Mais bon. Sentiment très classique, pas grand chose de nouveau, y a pas grand chose qui me procure une quelconque émotion dans Flip Fighters. Grosse déception ce Hens, y a un thème que je trouve incroyable, une couverture merveilleuse. Moi je m'attendais un petit peu, si vous voulez, à avoir l'Untitled Goose Game du jeu de société, je vous invite à vous renseigner sur ce jeu vidéo. Et en fait, c'est juste un truc quelconque de plus, où les poules ça pourrait être des carottes, ça pourrait être des outils, ça pourrait être des ressources. C'est là que pour illustrer en fait un jeu qui offre rien du tout. Que ce soit en solo ou à plusieurs, on va juste faire bêtement une grille de 4x3, on va devoir poser les trucs de manière adjacente, en respectant certaines contraintes, et on va marquer des points de manière pas du tout originale, selon sa plus grande zone, selon quelques trucs de points, selon quelques objectifs qui là encore n'ont aucune identité. Alors à plusieurs, il y a quand même ce petit truc, en termes d'interaction, de pouvoir aller chercher dans la défausse d'un adversaire, là c'est pas très original non plus, mais au moins ça force un peu à regarder ce qu'on risque de laisser aux autres. Et il y a juste un truc aussi qui titille un peu le cerveau, c'est les contraintes de pose, j'ai dit. Au début ça va, c'est assez facile, mais petit à petit en fait on est obligé de respecter plusieurs contraintes de pose. toutes celles des cartes adjacentes à la carte qu'on veut poser, et ça force un petit peu à anticiper, parce que sinon il faudra poser une carte cachée qui va faire perdre un point, et on pose que 12 cartes, donc finalement une qu'on n'arrive pas à utiliser, c'est finalement beaucoup. Mais bon voilà, au-delà du thème rigolo, mais qui est pas utilisé du tout correctement, alors on m'avait prévenu, on m'avait dit ouais bon aucun intérêt, et effectivement ça apporte rien de plus à plein d'autres jeux qui font mieux que lui. On continue dans les jeux nuls, vraiment nuls quoi, enfin vraiment que j'ai trouvé sans intérêt aucun, sinon le perdre aux 30 minutes de ma vie. Alors ça fait un bout de temps que j'avais pas joué à Imperial Settlers, enfin que j'ai pas joué d'ailleurs parce que j'ai pas rejoué récemment, mais je vous avoue que j'en garde un assez bon souvenir avec les factions, le petit deck perso, avec quand même un deck commun à tous et à toutes. Il y avait des axes différents de développement pour chaque faction. Et donc Imperial Miners, qui est proposé par le même éditeur et localisé par Yellow également, c'est la même licence, au point qu'il y a le nom Imperial Settlers dessus aussi en tout petit, c'est assez moche en termes de visuel je trouve. Il y avait aussi un Roll and Ride qui avait fait ça il y a quelques années, je l'ai pas essayé, mais qui était situé dans l'univers entre guillemets d'Imperial Settlers. Alors je sais que c'est Cyrus de Proxy Jeux qui avait émis des réserves à son retour d'Essen, notamment parce que c'est un jeu, alors déjà il aimait pas spécialement le moteur, mais surtout lui trouvait qu'à plusieurs il y avait aucune interaction et c'est quelque chose que lui recherche dans les jeux, et c'est vrai, il y a vraiment zéro interaction, mais absolument aucune, mais peut-être je me suis dit allez, on va essayer, peut-être que c'est un bon jeu solo au moins. Eh ben non, non plus, en fait c'est juste nul de A à Z, que ce soit en solo ou en multi. Alors oui, il y a rien qui n'est un élément de compétition, il n'y a pas de course, il n'y a pas de blocage, il y a juste l'idée de comparer nos scores à la fin, ça, effectivement, zéro interaction. Encore une fois, c'est pas grave si le jeu était bon. J'avoue que moi aussi, je préfère les jeux où quand on est à plusieurs, on a tendance à interagir, où on peut surveiller un peu notre action, si notre action qu'elle a un impact chez les autres. Mais dans l'absolu, je vous avais parlé d'Ancient Knowledge ou d'autres jeux relativement solo en dehors, il y a encore Ancient Knowledge, il y a plein de points où on pourrait dire que c'est pas vraiment solo. Même des jeux exclusivement solo, mais joués à plusieurs, les multiplayer solitaires, si le système est bon, que ça m'offre des émotions, du challenge ou quoi, indépendamment de la donnée de l'interaction, j'arrive à y trouver mon plaisir, et donc à passer un bon moment. Mais c'est pas le cas d'Imperial Miners, vous le devinez, puisque je trouve que ça fait vraiment partie de ces sorties complètement inutiles. S'il n'existait pas, ça manquerait à personne, ça prend de la place sur les étals, ça prend de la place sur la communication, et en plus ça va chasser ou mettre en sourdine des choses qui méritent, elles, d'être beaucoup plus mises en avant qu'un jeu comme ça. Donc là l'idée c'est de creuser d'étage souterrain en étage souterrain, et on est obligé de poser d'abord des 1, puis des 2, puis des 3, puis des 4 si on veut, et en gros quand on pose un étage, si je pose l'étage 3, je remonte des profondeurs et je parcours chacun des étages, et je vais donc activer chacun des étages par lequel je passe, en tout cas une carte de chaque étage, une carte adjacente à la carte précédente qui était en dessous quoi, et donc ça active leur bonus, etc. Pourquoi pas, thématiquement ça se tient, les mineurs qui reviennent un peu du boulot, et il va y avoir aussi des factions comme dans tous les jeux Imperial Settlers, et chaque faction va avoir un peu des petites particularités de scoring, d'activation, mais voilà, que ce soit le choix de la carte, que ce soit l'idée de niveau, que ce soit les effets activés, que ce soit la durée de partie, il y a rien quoi. Il y a rien du tout qui m'enjaille, qui me fait lever un sourcil d'intérêt. Il y a aucune place pour développer quoi que ce soit, parce que la partie elle est faite vraiment dans une espèce de volonté éditoriale de caser le jeu pour viser un certain public d'un point de vue de la durée de partie et réussir à vendre son jeu. Ça a pas de sens vis-à-vis du jeu, on peut construire un peu un petit moteur, mais comme dans un Dice Forge ou quoi, on arrive au moment où ça commence peut-être à pouvoir activer des trucs, et c'est fini. Et en plus, ça c'est ce que disait je crois Cyrus, que en gros à chaque fois si tu veux remettre une carte, t'es obligé de repasser par un autre circuit, et donc ton moteur il se désactive, sauf pour certains effets. Voilà, il y a aussi des petits trucs en plus, genre les wagons pour jouer un peu sur l'adjacence, on contrefou aussi. C'est vraiment un travail ultra scolaire. En fait, c'est le jeu, genre, tu pourrais faire ça chez toi, pour voir un peu ce que tu peux faire en termes de game design ou pour t'entraîner. Mais en arriver à l'édition et à la localisation de trucs aussi fades, il y a quand même quelque chose que j'ai du mal à comprendre au niveau de l'édition actuelle, quoi. Voilà le deuxième jeu solo de chez Matago du mois, et alors si Convoyeur très spatial, je vous ai dit que j'avais été déçu, mais il y a quand même quelques éléments à sauver, un système bien huilé, peut-être quelque chose aussi du côté des extensions, Pentaquark, il n'y a pas grand chose à en sauver, c'est je crois, il me semble, des retours que j'ai eu, un des premiers de la gamme chez Button Shy en 2016. Alors d'abord, malgré la durée de partie et la simplicité du tour de jeu, finalement, en fait, la règle elle est imbitable. Et je pense pas que c'est moi, parce que pour le coup, j'ai vu le fait que C'est quoi cette règle dans plein de retours privés et publics je pense pas que ce soit juste moi. Alors je sais que le thème il est un peu question genre de truc genre physique quantique tout, mais quand même quoi. Enfin c'est complètement absurde ce genre de règle. Alors pour le coup la règle originale est pas claire du tout. C'est pas une question de traduction, mais quand tu localises un jeu c'est aussi l'occasion peut-être de retravailler un peu tout ça pour que ce soit un peu plus lisible. Du coup moi après avoir parcouru le livret quelques fois sans réussir à me rendre compte du tout de comment se déroulait le jeu, je suis allé voir des vidéos pour voir un petit peu comment tout ça fonctionnait. Alors finalement, après quelques parties, j'ai trouvé ça vraiment nul. Les choix paraissent relativement évidents, c'est très très répétitif. Souvent, on n'a pas l'impression d'être vraiment acteur ou actrice de sa victoire ou de sa défaite. Donc il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas l'envie de revenir, il n'y a pas l'envie de progresser, il n'y a pas l'envie de comprendre des erreurs. J'en retiens juste le petit truc de retourner la pioche pour faire une nouvelle manche, ça ouvre quelques prévisions à moyen terme. Mais bon, le but final est tellement inintéressant que ça sauve pas vraiment le jeu. Pour couronner le tout, en fait, au-delà du fait que le système est pas intéressant et ça mène un peu à rien. Mais je trouve que chez Buttonshine, dans l'ensemble, c'est une gamme qui a des identités visuelles plutôt réussies et plutôt fortes. Par exemple, Convoyeur très spatial, j'aime bien le look du jeu. Pas là, même pas, je trouve ça assez moche. Donc, gros ratage. C'est dommage parce que bon, en fait, il y a tellement de productions Buttonshine qu'il y a de quoi faire pour éviter de localiser les trucs les plus pourris, et qui en plus sont écrites effectivement n'importe comment, encore une fois, une règle incompréhensible et un jeu qui n'est pas intéressant du tout. Dirk Hen, c'est un auteur très très respectable et très doué, hein, ne serait-ce que parce qu'il a fait quand même des très bons jeux comme Alhambra, comme Shogun, ou Metro, à la fin des années 90, que je trouve plutôt cool. Mais Powerline, donc le dernier jeu de cette liste de déceptions, et qui est édité par Queen Games, alors c'est une habitude hein, chez Dirk Hen, il a plein de jeux édités chez Queen Games depuis une vingtaine d'années, c'est pas du niveau hein, des jeux que j'ai cités. C'est pas le pire jeu de la planète, c'est pas le pire jeu des déceptions, mais c'est très très plat. Et on en fait le tour en une partie, alors on peut aller explorer un petit peu pour les variantes de scoring, qui m'ont l'air un peu plus intéressantes. Ça reste... la même chose quand même, plus ou moins. C'est un système très simple, on balance des dés de différentes couleurs qui vont correspondre en fait aux pions des plateaux joueurs ou joueuses. Et ces dés-là, on les place dans un certain ordre et il va falloir qu'on place nos petits bonhommes dans le même ordre, donc de gauche à droite ou de droite à gauche, sans sauter de personne. Je vais devoir placer mon bonhomme rouge sur un emplacement indiqué par le dé rouge. Je vais devoir en fait les placer sur les valeurs représentées par les dés. Et pourquoi je fais ça? C'est pour remplir des lignes, hein, les power lines, les lignes d'énergie, pour marquer des points lors de trois scorings différents. Et en plus, si j'arrive à entourer certaines zones, je sais plus comment ça s'appelle, les centrales ou que sais-je, ou les usines ou trucs, ça rapporte des points en plus. Il y a zéro interaction là aussi, hein. On est vraiment tout seul face à ses choix et son plateau. Alors, faut savoir que les plateaux sont différents dans la disposition de selon les personnes. Mais on peut pas vraiment parler de jeu asymétrique, hein, ça change absolument rien dans le jeu. C'est un exercice qui est pas désagréable dans l'absolu, de regarder son plateau, de se dire « Ah, je vais optimiser ça, ça je vais plutôt placer là et là, et puis en plus on peut placer maximum sur trois lignes. » Ce genre de truc, ça offre quand même quelques choix, mais c'est assez plan-plan, il y a pas de grand enjeu. Il y a quand même une petite dynamique intéressante, c'est le côté entonnoir, il y a une espèce de réduction des possibles, parce que il y a un certain nombre de tours de jeu, et il va y avoir exactement ce nombre de tours de jeu, exactement ce nombre de possibilités de placement. C'est-à-dire que dans toute la partie, on ne va pouvoir placer X pions qu'un certain nombre de fois dans un tour. Par exemple, je vais pouvoir en placer 3 que, je crois, 3 fois. 1 que 2 fois. 6 que 2 fois aussi. Donc c'est à nous, en fait, de trouver le moment le plus pertinent pour en placer 1, 3 ou 6, sachant qu'on ne peut pas en placer 0, on peut pas passer son tour. Ce qui fait que parfois, pour pouvoir jouer, et parce que si j'ai vidé toute ma colonne de 6, je peux plus en mettre 6. Ou si j'ai vidé toute ma colonne de 3, je peux plus en mettre uniquement 3. Du coup, pour pouvoir jouer parfois, on va devoir placer, en fait, des pions dans une zone annexe qui va faire perdre des points. Mais parfois, c'est pas juste... Parce qu'on peut pas, c'est pour sauter entre guillemets un dé et passer à un suivant pour faire des coups un peu plus intéressants. Donc il y a ce côté un petit peu entonnoir qui est pas inintéressant et qui est intéressant à constater la première partie et à se dire ah tiens, il y a quand même ce truc là qui est une contrainte assez forte, mais bon, pas de raison vraiment d'y retourner. J'y ai joué qu'en numérique sur Tabletop Simulator et je vous avoue qu'en plus, je crois que c'est une édition à plus de 40, entre 40 et 50 euros avec des plateaux et tout, du carton, blablabla. Je comprends pas une édition pareille de la part de Queen Games, c'est un jeu qui aurait pu être clairement un jeu à cocher avec quelques feuilles plastifiées. Éventuellement le petit plateau pour un prix beaucoup plus accessible, et pour le coup, vu la faiblesse des émotions ressenties et l'apport du matériel en carton, c'est à peu près inutile, je pense que les sentiments de jeu seraient exactement les mêmes. Voilà, les déceptions, c'est terminé, il y en avait quelques-unes, heureusement un peu plus de soleil nous attend, même si dehors ça caille de ouf, mais on va partir avec les expériences ludiques que j'ai trouvées plutôt plaisantes en décembre 2023. Je vous le disais, je vous le dis à chaque intro, chaque mois, mais je traite pas que les nouveautés. Moi, je suis toujours curieux, en fait, de jeux de manière générale et notamment de découvrir des choses plus anciennes. Et ce mois-ci, c'est Rainer Knizia qui en témoigne avec Blue Moon. Rainer Knizia qui, après une exceptionnelle absence le mois dernier, est bien de retour dans ses mensuels. C'est un jeu qui est sorti en 2004. Il me semble qu'il a eu une nouvelle version dans les années 2010, genre Légende ou quoi. Et en fait, c'est un jeu qui aurait tout à fait sa place aujourd'hui dans un marché où, ben, il y a les JCE, les JCC, ils sont assez nombreux. Alors, c'était peut-être le cas à l'époque, mais j'avoue que je les pratiquais pas trop à part Magic. Mais parce que au-delà, ben, y a une boîte de base avec des factions, mais Blue Moon a plein d'extensions qui sont autant de peuples différents qui ont leurs petites spécificités, que ce soit au niveau des illustrateurs, des illustratrices, au niveau des pouvoirs, et en plus y a quelques contraintes, mais on peut personnaliser des decks en mélangeant tout ça, donc voilà. Pas mal de possibilités. Et question rythme et dynamique, je trouve que honnêtement, il y a plein de joueurs ou de joueuses actuelles qui pourraient trouver leur kiff dans le système de jeu qui est assez limpide, et somme toute, il y a assez peu d'interrogations essentielles, même si ici et là, on se demande si tel effet, comment ça se résout. Peut-être que le côté où on se pose pas trop de questions, ça vient du fait que les factions que j'ai essayées, ça reste assez simple. Alors c'est bien, mais du coup, ça manque un peu de folie ici ou là, que ce soit en termes de structure de jeu ou des pouvoirs des cartes. C'est toujours un peu dommage, même s'il y a quelques cartes leadership qui sont un peu claquées, il y a aussi des supports ici et là qui changent la donne, ils changent un peu la dynamique. Je trouve que dans l'ensemble, les parties ont suffisamment d'identité, même si c'est un peu redondant quand même, au cours même d'une seule partie. Mais bon, de toute façon, si ça vous intéresse, alors je sais pas si le Blue Moon Legends, je crois que ça s'appelle, est disponible, mais sinon il faudra vous pencher sur le marché de l'occasion. C'est ce qu'a fait Cyrus, c'est lui qui m'a fait découvrir le jeu, merci à lui. Ou bien, vous le voyez en fond, mais sachez que j'ai trouvé un site où on peut trouver un vieil exécutable. Je l'ai testé pour vous, ça fonctionne sur un OS actuel, c'est pas vérolé et tout. Alors, clairement, vu que Knizia il fait très gaffe à tout ce qui est disponible en ligne, je pense que c'est complètement illégal. Mais voilà, ça reste une façon d'y jouer et je vous mets tout ça dans la description. Chez Amigo, il y a souvent des petits jeux de cartes simples et malins, comme on peut les trouver parfois traduits chez Oya. Kabanga, c'est clairement de cette gamme-là, enfin de ce style-là. En gros, vous allez pouvoir le sortir avec tout le monde parce que c'est un bon jeu, mais notamment si vous avez des amateurs, des amatrices de ce qui joue, du ce qui prend, ce genre de truc, ça s'y prête totalement. Alors ça n'a pas la profondeur, je trouve, ni la subtilité d'un mind-up, mais en termes d'ambiance, c'est super. L'idée, c'est vraiment tout con. C'est on pose une carte d'une valeur et d'une couleur d'un des côtés de la carte qui représente cette couleur, qui sont donc des masques. Forcément, ça va créer un écart avec la carte de l'autre côté. De la carte masque, donc par exemple s'il y a un 7 d'un côté et que je pose un 15, ça va créer un écart de 8, et le but c'est de vider sa main avant les autres, parce que dès que quelqu'un a vidé sa main, tout le monde prend des points, et on veut pas prendre des points, ces points ils sont symbolisés par des petits losanges sur les cartes, selon les cartes il va y avoir plus ou moins de petits losanges, ce qui va évidemment laisser une petite stratégie où on va se dire si je gagne pas, et il faut que je me défausse de mes cartes qui ont beaucoup de losanges, c'est tout bête. Mais voilà, il n'y a pas que ça hein, quand même, c'est que tout le Kabanga du titre, quand on pose sa carte, qui doit être de la même couleur que le masque, si d'autres personnes possèdent des cartes de cette couleur-là, qui rentrent dans l'écart entre les deux cartes de cette couleur, elles peuvent s'en défausser, ce qui du coup les approche de la victoire, mais surtout la personne qui a posé la carte repioche autant de cartes que celles défaussées par les adversaires. Je sais pas si c'est clair, je pose un 12 bleu alors qu'il y avait un 17 bleu, et si des personnes qui avaient un 17 bleu en face, je veux dire, ça fait un écart de 5, et le 13, 14, 15, 16 bleu, si des personnes les ont, elles peuvent les défausser, et moi je piocherai autant de cartes que celles défaussées. Alors évidemment, généralement on va essayer de créer les écarts les plus petits possibles, de faire un 6 avec un 6 ou un 6 avec un 7, parce qu'on peut rien, peut pas y avoir de Kabanga à ce moment-là. Il y a notamment aussi, ça permet, alors j'ai encore peu exploré ce côté-là parce que ma mémoire est très faible, mais il y a peut-être une petite composante un peu mémoire où on va se dire ah oui ça je sais que c'est passé donc bon c'est à peu près safe de jouer ça, mais la partie avance petit à petit et forcément on finit par devoir créer des écarts plus conséquents en général, et là croyez-moi qu'on serre les fesses, on espère qu'il y a pas mal de choses qui sont passées parfois parce qu'on peut récupérer un paquet de cartes comme ça, notamment on peut passer d'une très bonne place à la dernière place, et également il y a ce côté là où on se dit peut-être, il y a aussi les moments où finalement on récupère rien alors qu'il y a énormément d'écarts et c'est des situations assez rigolotes. Il y a aussi un petit truc, c'est que en fait on est obligé de changer de couleur à chaque personne qui joue. Si quelqu'un vient de jouer sur le violet, je peux pas jouer sur le violet, ou bien je peux, mais à ce moment-là je dois piocher, donc j'ai pas défaussé de carte, Mais parfois, ça vaut quand même le coup, pour éviter d'en piocher trop. Une petite astuce d'ailleurs, qui manque peut-être dans le jeu, alors c'est une toute petite boîte et tout, pas de souci là-dessus, même si bon, les visuels, on dirait que c'est un truc des années 90, mais c'est pas gênant. Mais nous, on prend un petit jeton, une pièce ou un truc pour se rappeler de la dernière coulée jouée, parce que dans le feu de l'action, dans le flux de jeu, les parties que j'ai fait où j'utilisais pas ça, je me suis rendu compte qu'on avait facilement tendance à oublier ce qui venait d'être joué. Donc ça a l'air de rien, petit jeu, mais ça fonctionne super bien. Il y a une tension qui s'accroît au cours de la manche, parfois, notamment, on va jouer plus vite, pour couper l'herbe sous le pied à une autre personne qui dirait Kabanga et qui risquerait de défausser ses dernières cartes, donc il y a ce côté rythme qui s'accélère aussi. Ça fait partie d'ailleurs Kabanga de ces quelques jeux, il n'y en a pas tant que ça, hein. On a créé un verbe en fait pour le Kabanga, on dit ici Kabangé, quelqu'un veut Kabangé ou des trucs comme ça, voilà, c'est pas si fréquent, donc ces fameux jeux où on dit des mots à répétition comme Skijo, ou parfois on dit on fait un Skijo, etc., alors qu'en fait c'est pas dans la règle. Kabanga, alors je crois qu'ils disent de dire Kabanga, mais ouais, ça rentre en tête et ça fonctionne très bien. Donc une très chouette surprise, honnêtement, sans doute pas un jeu qui va marquer de son empreinte le monde ludique, mais perso, je le présenterai à plein de monde, je pense, dans l'année 2024 qui va venir. Il a ce petit goût de jeu classique au look des années 90 qui pourrait avoir été créé à ce moment-là. Et dans l'ensemble, alors il est à partir de 3, mes préférés, jouer à 4, mais surtout 5 ou 6, parce que le jeu gagne vraiment en vie, puisque à chaque tour, plus de monde peut cabanguer. Si vous jouez à 3 ou 4 aussi, normalement c'est à 18 points négatifs qu'on arrête. Adapter peut-être le score, sans quoi ça peut être un peu longuet parce que les scores en fin de manche sont plus resserrés quand on est moins nombreux. C'est pas présenté dans la règle, mais vous pouvez jouer en 10 points ou en 12 points ou que sais-je. Alors pour le moment, il est dispo qu'en allemand, mais il y a une règle anglaise. Et puis, comme dit, hein, peut-être qu'un éditeur comme Oya finira par le localiser parce que clairement, c'est un jeu qui aurait tout à fait sa place à côté de classiques du genre. Avec Blue Moon, on partait 20 ans en arrière, maintenant on va aller vers le futur. Très proche avec Captain Flip qui va être la première production du nouvel éditeur Playpunk, ça devrait sortir d'ici quelques semaines je crois pour Cannes 2024, mais il est déjà arrivé sur Board Game Arena depuis fin novembre ou début décembre. Alors je dis nouvel éditeur, mais à sa tête de cette boîte, c'est pas du tout des inconnus, hein. C'est Thomas Provost qui avant dirigeait Repoprod. Et c'est Antoine Boza, auteur francophone que vous connaissez sans doute pour Seven Wonders, pour Tokaido, pour Takenoko, pour Oltre, que sais-je. Et malgré le nom, alors à chaque fois que je parle de cet éditeur, je le dis parce que je trouve ça trop ironique. Voilà, Antoine Boza et Thomas Provost, dans ce qu'ils ont produit pour le monde ludique, pas exactement les gens les plus punk, hein, ils sont quand même assez standards, assez consensuels. Et alors pour ce premier jeu édité, ils sont quand même allés chercher Paolo Mori, qui est un auteur que j'adore depuis des années. Et ici, il est accompagné par Remo Consadori. Je vous en avais parlé début 2023 parce qu'il avait fait Rise. Et alors, si je devais faire une espèce de filiation par Paolo Mori, je dirais qu'en termes d'immédiateté, d'accessibilité et de qualité, on se situe un peu dans la veine d'un Augustus, avec peut-être encore moins de choses annexes, donc un truc encore plus immédiat. À son tour, on prend une tuile, on la pose sur son tableau qui est des trucs autour des pirates, hein, soit un radeau, soit une île, soit un bateau pirate, que sais-je. Et donc, il y a plusieurs colonnes et on commence toujours une colonne par le bas, mais on peut commencer par la colonne qu'on veut, mais on est obligé de les faire de base en haut. Et quand 4 colonnes sur les 5 sont finies, la partie s'arrête et on compte les points, sachant qu'il y a des points qu'on gagne aussi pendant la partie, etc. Et donc compléter les colonnes, ça permet de marquer des points différemment selon le tableau du jeu, ou bien ça permet de gagner quelques bonus. Et puis il y a quelques méthodes de scoring à la fin de la partie. Il y a aussi, si on joue le cartographe, une carte récupérée qui nous fait un point par tour, si on la possède, et c'est aussi ça qui brise les égalités à la fin. Dans tous ces trucs-là, dans le scoring et tout, notamment dans le scoring des colonnes, il n'y a rien de foufou, mais les personnages sont bien trouvés. Quand même un peu d'interaction, on pourrait croire que c'est un jeu solo, mais beaucoup moins je trouve qu'un Faraway par exemple. Il y a notamment sur le tempo de la partie, avec le contrôle de quand est-ce qu'on va mettre fin à la partie. Il y a aussi ces canonnières incroyables, qui si on en a 3, vont nous faire perdre la partie. Et si on voit que quelqu'un a 3 canonnières, peut-être qu'on va accélérer la fin de partie pour essayer de gagner si on est à 2. Mais il y a ce petit singe qui permet de retourner des cartes, donc notamment par exemple de retourner la canonnière, pour en cacher une, puisqu'on aura déjà gagné ses 5 points, on aura gagné le bénéfice, mais elles nous feront plus perdre de points, elles nous offrent un peu plus de flexibilité. Il y a aussi le singe, il permet de retourner la carte adjacente, donc de réactiver son pouvoir. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui fonctionnent très bien. Les pouvoirs fonctionnent très bien en interaction les uns avec les autres. Et surtout, il y a le flip, hein, du titre Captain Flip, parce que quand on prend sa tuile, on peut soit la poser sur la face qu'on a pris, soit la retourner. Mais si on la retourne, on sait pas ce qu'il y a derrière. Parce que c'est pas toujours la même combinaison recto-verso. Et si on la retourne, alors on est obligé de garder le côté sur lequel on l'a retourné. Alors, ok, peut-être que le personnage que je viens de piocher me sert à rien. Mais si je le retourne, est-ce que je vais pas me risquer de me retrouver avec une troisième canonnière? Ou avec un truc encore plus inutile que ce qu'était le recto? C'est ce petit feeling qui est couplé aux effets des cartes et qui apporte vraiment ce petit moment de choix qui représente quasiment rien, mais ça donne ce petit suspense, cette petite prise de risque. C'est vraiment juste ce qu'il faut en termes d'équilibre dans tout ça pour que moi ça me plaise. Alors, je regrette quand même que les quatre tableaux sur lesquels on évolue manquent un peu de personnalité, manquent un peu d'interaction. J'aurais aimé aussi des personnages, peut-être, qui permettent plus d'interaction directe, quitte à mettre tout ça, tu vois, en facultatif, et en se dire, bah, si vous voulez sans interaction, enlevez ces tuiles-là. Mais voilà, pour que chacun puisse s'adapter selon sa tolérance à l'interaction directe. Il y a bien le tableau du Kraken, qui met un peu d'interaction, puisque les colonnes, c'est des différentes courses, en fait, où la première personne arrivée en haut gagne un certain score, et les suivantes, un autre score. Un peu comme dans 4 cafés, je crois, qui est sur BGA. C'est un peu plus interactif, mais en fait, du coup, toutes les colonnes fonctionnent pareil. C'est un peu tristouille aussi. Donc, bon, si le jeu fonctionne, et honnêtement, je lui souhaite de fonctionner. Moi, je trouve ça très très bien, et très grand public dans le bon sens du terme. C'est vraiment un jeu que je pourrais faire découvrir à plein de monde très facilement et que je trouve très bien. Peut-être qu'il y aura des personnages, des tableaux supplémentaires, mais ça reste une petite déception pour moi de ce côté. Clairement, hein, ce genre de choix, c'est tout sauf punk. Hein, le punk, c'est violent, messieurs les éditeurs. C'est violent... pour contrer la violence donc, de l'État, etc. Là, vous êtes vraiment dans le côté beaucoup plus consensuel. Donc, play consensual, peut-être. C'est comme ça qu'ils auraient dit play safe. Hein, ils auraient dû s'appeler comme ça, les éditeurs. Mais donc, dans l'ensemble, ouais, très très bonne découverte de ce mois-ci. J'en ai fait des dizaines de parties. Un équilibre presque parfait pour moi de ce qui est offert en termes de choix, des impacts de ces choix, du lien de tout ça à la complexité, au rythme, à la fluidité du jeu. Encore une fois, c'est la preuve que bah, la qualité d'un jeu et le fait que je l'aime ou non, c'est pas que c'est fait pour moi, c'est pas que je suis pas la cible parce que je suis un joueur et que c'est plutôt pour les gens qui commencent, non. J'adore ça. Clairement, en termes de difficulté, j'ai parlé d'Augustus, que j'adore aussi. Et ben, pour moi, c'est encore plus accessible qu'un Seven Wonders Architect. Antoine Boza pourrait en prendre de la graine, justement. Pour moi, les boutiques pourraient typiquement le conseiller aux mêmes personnes qui... entre guillemets, débute. On peut débuter par un trône de fer, par un diplomatie, moi c'est ce que j'ai fait, je suis encore en vie. Mais dans le trajet classique de la personne qui commence à jouer, on va d'abord conseiller des jeux plus simples. Bah voilà, plutôt qu'un Seven Wonders Architect, 1000 fois je conseille un Captain Flip. Mais je le prendrai aussi pour moi, parce que c'est juste un bon jeu en fait. Là où Seven Wonders Architect, j'ai déjà dit plein de fois, mais je le trouve complètement plat. En tout cas, pour une première sortie de 2024, très très chouette. Passons du flip au flick, qui est le terme anglais pour les jeux de Plichenet. Alors celui-ci, le thème est assez fort, et si vous voulez, je sais que je parle beaucoup de proxy jeux pendant cet épisode, et j'ai pas fini, mais on en parle plus longuement avec Cargo, qui est un grand grand aficionado du genre de Plichenet. C'est lui qui m'a fait découvrir le cortège. On en parle donc dans un épisode de T'as joué à quoi, je vous mets tout ça en description. Alors je reste un peu réservé sur le thème, faute d'avoir pu discuter avec les personnes derrière le projet, parce qu'il y a une espèce d'édito. Le thème est bien dans l'absolu, et c'est fort de faire un thème comme ça, mais il y a une espèce d'édito un peu neutre, vous savez, qui prend pas trop parti. Moi, je le trouve un peu frileux, dans un monde où l'équilibre des forces, ben, il est pas équilibré, et qu'à un moment, faut prendre parti. Et les récits et les souffrances, ben, clairement, moi, que ce soit dans le camp des flics ou dans le camp des gens qui se font taper par les flics, ben, ça se vaut pas. Passer ça, passer cette petite réserve, on est dans un jeu qui est pas le plus immédiat par rapport à d'autres jeux du genre, même s'il reste, hein, globalement, dans un format assez court, à deux uniquement, où on peut faire un match aller-retour. Plutôt que, en fait, c'est pas un jeu où on va juste chercher à viser ou à taper les pièces de l'autre, ce qui déjà taper les autres, ça a une force thématique, hein, par rapport au thème qui est proposé dans le cortège, mais il y a surtout toute une question de la gestion de l'espace, de protéger des pièces, d'éviter des ouvertures à l'adversaire. Je sais que dans le T'as joué à quoi, je comparais ça un peu au billard, quand à la fois on va faire un coup, on va chercher à rentrer des boules, mais on va aussi faire en sorte que peut-être, en ayant tapé cette boule, la boule blanche, elle va être à un endroit qui va pas arranger mon adversaire. Il y a tout ce petit truc-là. Les manifestantes vont devoir prendre le contrôle d'une zone qui est représentée par un cercle trois fois pour gagner la manche. Ou bien ils ont une deuxième façon, c'est de faire basculer l'opinion de leur côté en dénonçant les violences policières. C'est encore une fois un petit curseur qui se déplace dès qu'un flic tape ou dès qu'on arrive à les prendre en photo. Alors du côté des flics, il faut évidemment éviter de faire en sorte, il faut limiter la communication des médias ou essayer de les mettre dans notre poche, ce que fait le pouvoir en général. Et ou bien éliminer des pièces adverses, évidemment. Pour ça, il y a des pièces classiques, rouges et bleues. Rouge, c'est évidemment les manifestants, mais il y a aussi des pièces différentes avec des petits pouvoirs, notamment pour pouvoir jouer sur ces jauges ou éliminer des pièces spécifiques. Alors, il est conseillé, comme dit, de faire une petite partie en échangeant de place et en comparant en fait le résultat de chaque personne à la fin des deux manches. Mais j'avoue que je peux comprendre, moi, qu'il est difficile thématiquement d'incarner les CRS et le pouvoir qui va taper sur les manifestants. Je sais que pour moi, c'est pas forcément la chose la plus simple qui soit. Donc, vraiment une proposition intéressante, notamment dans la transcription thématique et la manière dont il utilise en fait le genre de la pichenette, c'est assez particulier. Alors, c'est pas une partie que j'ai trouvé une source de plaisir intense, mais j'y rejouerai sans déplaisir, hein. J'aime bien le genre, j'aime bien la façon dont le cortège l'utilise, et il faut avouer que, faut bien dire que taper les flics à l'aide des black blocs, bah voilà, c'est une proposition qu'on trouve que trop rarement dans le paysage ludique. On reste dans un thème fort et un éditeur qui a des valeurs et des convictions, avec Dictopia, qui est un jeu qui est sorti chez Subverti en 2002. Je vous en avais parlé de Subverti avec Biomos, que j'avais trouvé un peu quelconque. J'en avais aussi parlé parce que c'est un des seuls éditeurs qui prend un peu position et qui accepte ça. Par exemple, je cite toujours l'exemple d'Antifa, où ils avaient clairement parlé de la bêtise qu'était d'enlever le jeu des étals de la Fnac. Et donc Dictopia, jeu de lettres, j'en parle pas si souvent, mais c'est un genre, il faut savoir que j'apprécie plutôt, même si c'est un genre un peu comme les Memory ou quoi, qui a tendance à très très facilement créer des différences fortes entre les personnes de niveaux différents. C'est un genre qui a tendance à accentuer les différences de compétences. Dans les plus récents, entre guillemets, moi je sais que mot pour mot, ça reste pour moi une grosse référence, mais c'est pas des jeux que j'ai si souvent l'occasion de sortir. Et alors, lors de ma découverte de Dictopia, on a tout de suite enchaîné deux parties. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Je me suis dépêché de le prendre en fait en cadeau de Noël, pas pour moi mais pour l'offrir, parce que j'ai vraiment été conquis. Je vous avoue qu'il est pas bien loin des tops, y a pas grand chose qui l'en sépare. C'est un jeu qui fonctionne avec des cartes, alors on croirait à des dominos, mais c'est pas des dominos en termes de fonctionnement, mais en gros c'est des cartes qui ont deux lettres. On a 8 cartes, donc on a 16 lettres, et en temps limité je crois que c'est 1 minute 30, sachant que évidemment vous pouvez le changer si ça vous chante. On va essayer de faire le mot le plus pertinent. Alors le plus pertinent, c'est surtout le plus long, parce qu'il y a un point par lettre, donc si on arrive à faire 8 lettres c'est 8 points. Sachant qu'il y a 4 ou 5 manches, je crois. Donc 8 points. Donc c'est pas mal, 8 points. Mais par-dessus ça, sur le dessus de la pioche, le dos des cartes lettres, en fait, il y a un certain nombre d'yeux. Donc c'est des yeux, c'est pour le lieu au thème, et donc on va voir ça au sommet de la pioche. Et si, sur les lettres qui composent notre mot, on a exactement le bon nombre d'yeux, c'est 3 points en plus. Donc un mot de 6 lettres avec pile le bon nombre d'yeux, c'est 9 points. C'est mieux que les 8. Et puis, honnêtement, faire un mot de 6, 7, 8 lettres, selon le tirage et tout, c'est compliqué. Alors que peut-être un mot de 4, 5 lettres avec les bons yeux, ça peut le faire et ça rapporte autant. Mais les mêmes lettres, un E par exemple, il va pas toujours avoir le même nombre d'yeux sur lui. Alors peut-être que si j'ai deux E, attends, si je prends ce E là, que je le mets autre part, que je le remplace par l'autre, mais non, ça marche pas, parce que là ça colle plus pour ce mot. Est-ce que je peux pas trouver un autre mot? Donc il y a déjà ça. Et à partir du deuxième tour, on va rajouter des objectifs annexes, sachant qu'il y a un tour, on va en mettre même deux. Alors c'est pas des contraintes, c'est pas des choses qu'il faut réaliser, c'est juste vraiment des objectifs annexes. Parce que si on les réalise, on peut le faire ou pas, mais si on le fait, ça va marquer quelques points en plus, 2 ou 3 la plupart. Par exemple, ça va être, vous gagnez X points si vous n'utilisez pas deux fois la même lettre dans votre mot, ou si vous utilisez un mot, par exemple, dans le champ lexical, je sais pas, de la flore. Bref, notre esprit, quand il fait son mot, il a plein de petits éléments à prendre en compte. Ce qui est très très fort, c'est qu'évidemment, la répartition des lettres peut être un peu injuste au niveau du tirage. Parfois, ça rend la plus facile à telle personne qu'à telle autre. Il m'est arrivé d'avoir vraiment un truc où j'ai eu le mot devant moi, et je me suis dit, bon bah voilà, en 15 secondes, j'avais mon mot, il était déjà pas mal, parce qu'il avait le bon nombre d'yeux. Mais même quand c'est comme ça, en fait, c'est pas un jeu où on va s'ennuyer pendant la fin de la minute 30, on va rester vachement actif ou actif. Déjà, on peut regarder ce que font les autres par curiosité, et surtout, on va essayer de regarder si on peut pas gratter ne serait-ce qu'un petit point, en essayant d'organiser un peu les lettres différemment, en collant, en trouvant un autre mot qui colle au thème, en trouvant un mot qui vise le bon nombre d'yeux. Inversement, au début du tour, alors c'est peut-être moi, mais moi j'ai tendance à essayer de viser, bien sûr, à la fois les yeux, le mot long et un objectif annexe. Mais sauf que c'est difficile. Et en fait, il faut réussir à trouver ce petit moment de rupture. En fait, c'est un moment de rupture qu'on va se créer soi-même. On va se dire, ok, laisse tomber, il faut que je trouve autre chose, un mot plus court, un mot où je vais faire plus court mais je vais avoir les yeux, ou bien je laisse tomber les yeux et je fais le thème. Parce que vous savez que un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est ce qu'on dit. Quelques points, alors que sinon, peut-être que je vais faire un mot de 3 points parce que je serai dans l'urgence à la fin et que j'aurais pas trouvé. Mais du coup, ce petit moment de bascule, il est pas simple à accepter, parce qu'on est quand même là à se dire, je dois pouvoir trouver un truc. C'est un exercice vraiment, je trouve, assez cool à observer a posteriori. À ce système là, qui est solide, et je trouve que c'est des très bonnes sensations, j'ai parlé du thème. Je trouve que comme souvent chez Subverti, c'est un peu engagé, c'est celui de la surveillance des mots, de la censure, etc. C'est assez bien retranscrit à la fois par la boîte, le dos de la boîte, les règles, et la bande son aussi qui est proposée par l'éditeur sur le site et qui peut servir de timer. Et alors, on pourrait se poser la question, parce que c'est un jeu quand même assez grand public en termes de sensations et de propositions, et clairement, c'est pas le thème le plus mainstream qui va appeler le plus de monde dans un rayon, mais je vous avoue que si on peut se poser la question du choix éditorial en termes de succès, moi c'est un choix que je préfère, qui est assumé, qui colle avec la direction éditoriale de l'éditeur, et que je préfère ça un truc sans âme, d'autant quand ça rentre à peu près en cohérence avec la proposition ludique. Il y a aussi un mode solo qui est pas inintéressant, je l'ai pas essayé, mais j'ai lu et ça a l'air assez cool, donc je serais curieux de l'essayer. Il y a aussi une extension, évidemment 1984. Alors tout ça, pourquoi pas un top? Je vous avoue que j'ai longtemps hésité, parce que c'est très bien, mais il faudra peut-être laisser un peu le temps faire son œuvre, parce que moi, même si je passe à chaque fois un très bon moment, un peu l'impression d'avoir fait le tour des émotions que le jeu a me proposé, c'est à chaque fois une bonne partie, mais je suis pas sûr qu'il s'installe dans la durée ou comme une référence personnelle dans les jeux du genre. Mais vous l'avez compris, c'est quand même une très très chaude recommandation de ma part. C'est le premier et le seul jeu de défausse du mois, et c'est l'occasion de retrouver un habitué de ces vidéos, c'est Friedman Friseux. Alors, il est peut-être pas habitué au point de Rainer Knizia, mais il est toujours bien placé lui aussi, et c'est rare que ces jeux soient entièrement inintéressants. FTW, c'est pour For the Win. C'est un petit jeu de défausse en plusieurs manches, où quand une personne s'est défaussée toute sa main sauf une carte, elle va marquer le nombre de points inscrits sur cette carte. Donc si j'ai le 33 à la fin, je marque 33 points. Pour les autres personnes autour de la table, et ben en fait, le nombre de points, ça va être la différence entre la plus haute carte moins toutes les autres. Donc si j'ai un 35, un 7 et un 6, je fais 35 moins 13, ça me fera 22 points. Et pour ça, comment ça se déroule? C'est un jeu d'escalade très classique, mais un jeu d'escalade vraiment ultra simpliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combinaison de paires, de suites ou quoi que ce soit. On ne joue qu'avec une seule carte. Toujours, il faut mettre une carte plus forte que la précédente, sachant que toutes les cartes sont en exemplaire unique, ça va aller de 1 à X selon le nombre de personnes autour de la table. Et donc soit on pose une carte plus grande, ce qui est le truc de base, soit on passe, et quand on passe, on récupère une des cartes qui a été posée plutôt dans la défausse dans notre main, celle de notre choix, on dégage tout le reste, et en plus, une carte plus petite que celle qu'on devait jouer, on la met en carte qu'on nomme auxiliaire, donc c'est une carte plus petite que la dernière posée par la personne avant nous, et cette carte auxiliaire, elle va pouvoir en fait servir, si on choisit de monter, en utilisant une carte plus petite que celle de la personne précédente, mais combinée à une ou plusieurs cartes auxiliaires. Un exemple concret, la carte qu'on doit battre c'est le, je sais pas, le 18, en carte auxiliaire j'ai un 10, je peux poser tout à fait une carte 9 dessus, avec le 10, et le 10 je le défausse, et du coup ça fait redescendre la pile à 9. C'est une petite dynamique assez intéressante pour faire redescendre aussi la pile. Alors c'est tout con, mais pourtant, malgré la simplicité du truc, j'ai quand même mis un peu de temps à savoir ce que j'en pensais, parce qu'il y a tout qui paraît un peu évident, le choix il paraît assez limité, et pourtant il y a quand même quelque chose dans le jeu. Il y a un rythme, il y a un feeling qui est particulier dans les moments pour jouer sa carte auxiliaire, pour en récupérer, dans les moments où on va sentir qu'on est pas la personne qui va gagner la manche en fait, et du coup il va falloir limiter la casse, essayer de garder une grande carte, mais surtout des petites cartes pour pas pour faire un maximum de points. Il y a cet équilibre à trouver entre les hautes valeurs qui vont nous permettre de jouer, donc d'avancer dans le jeu, mais aussi on veut les garder pour scorer. Clairement on est comme Kabanga plutôt, un jeu très, vous savez, tape carton, très bien sur un comptoir à jouer un peu en automatique, mais il y a quand même un petit truc qui titille la curiosité quand on s'intéresse un peu au game design et au feeling. Ce qui permet le feeling en fait dans le game design, ce qui permet ce feeling dans le jeu. Rien d'incroyable quand même, hein, rien de très marquant. Par exemple, je trouve Fuji Flush du même auteur et dans le même genre nettement supérieur en termes de proposition. Mais c'est quand même vraiment assez intéressant. Si vous êtes curieuse ou curieux, vous pouvez parfaitement y jouer avec un The Mind, un The Game, c'est ce qui prend. Les illustrations, ça apporte rien au sentiment de jeu, c'est de Harald Liske et c'est vraiment juste des numéros sur des cartes. Freeze, il a un peu râlé. Un peu avant la sortie du jeu ou à la sortie du jeu, parce qu'il a vu arriver en fait sur BGG des notes, alors que le jeu n'était pas encore disponible. Et il s'est rendu compte en fait qu'il y avait des gens, vu la simplicité de l'émulation, qui avaient créé une room playingcards.io, c'est un site que je mentionne ici souvent. Et il râlait sur le fait que les personnes y mettent des mauvaises notes parce qu'ils ont très mal jugé son œuvre. Il disait, moi, à chaque fois que j'ai joué, les gens ont pris du plaisir. J'ai trouvé ça franchement hypocrite, parce que effectivement, ce genre de jeu, de défausse, de comptoir et tout, ça prend évidemment son essor autour d'une même table. Mais sur le système, sur le rythme de jeu, sur sa dynamique, on peut tout à fait s'en faire une idée en numérique. Et le comble, c'est qu'au niveau des arguments, je m'attarde un peu là-dessus, mais parce que ça m'énerve, il disait, oui, vous savez, l'objet jeu, c'est un tout, il n'est pas que le fait de jouer en numérique, c'est complètement différent, parce que... Alors, je comprends ça, hein, notamment, il y a une vidéo d'Amabel Holland qui parle de plein de trucs qui sont pas mécaniques et qui procurent des émotions et changent le sentiment de jeu, je suis d'accord avec ça. Mais, il cite des illustrations. Dans le cas de For the Win, excusez-moi, de FTW, c'est un peu ironique parce que les illustrations, voilà. Et aussi, cet avis rapide, lui qui dit « Oui, vous comprenez pas, en jouant en numérique, les sensations du jeu. » En fait, moi j'avais joué au jeu avant de l'acheter. Pourquoi? Parce que j'avais The Mind, j'ai The Game, donc j'ai pu y jouer en physique. J'ai pu essayer et avoir les sensations du jeu, puisqu'encore une fois, les illustrations ne changent absolument rien au jeu. Voilà, c'est un peu... Voilà, peut-être que les gens qui avaient mis des notes, c'était plus des gens comme ça, plutôt que des gens qui avaient essayé en numérique, je sais pas. Je m'attarde un peu parce que, ouais, c'est un auteur quand même qu'on peut voir un peu comme un peu punk, comme un peu audacieux, et je pensais pas qu'il serait aussi relou sur ce genre de pratique et sur les notes BGG, donc ça m'a un peu déçu, voilà. Mais sinon, comme Fuji Flush, évitez la configuration minimale, hein, notamment à 2, préférez jouer à partir de 4, et si vous avez trouvé ça nul, mettez une sale note sur BGG, ça apprendra à Monsieur Freezer à aller sur la manière dont les gens pratiquent ces jeux, voilà. Mais moi, franchement, ouais, sans que ce soit un excellent jeu, c'est en tout cas une agréable surprise, et en fait, ça s'est révélé agréable au fur et à mesure des parties que j'ai jouées. Celui-là, il a été joué lors d'un brunch au Philibar, et alors je suis content d'avoir essayé dans ce contexte, je reviendrai un peu dessus pourquoi. Alors pour faire court, c'est plus ou moins un jeu de culture G, de questions auxquelles on va répondre, mais pour répondre, c'est un système assez malin. Parce que plutôt que de donner des bonnes réponses, il va falloir éliminer des mauvaises réponses parmi, je crois qu'il y en a sur 6. Ouais, non, là je suis trop mauvais en maths, mais il y a plusieurs combinaisons. 1, 2, 3, 4, 9 peut-être ? Un truc comme ça. Et donc il y a une seule bonne réponse en fait, qui va être juste, on va combiner deux espèces de cartes qu'on va insérer dans le jeu, et ça va laisser une seule bonne réponse possible. Et alors comme souvent, dans les jeux du genre moderne, on n'est pas dans le Trivial Pursuit, que ce soit Gambit 7 ou quoi, ou I Know, on est sur des choses où savoir exactement la réponse, c'est assez rare. Et de ce point de vue-là, les cartes qui ont été créées, c'est plutôt bien fait, parce que toute réponse face à toute question peut paraître crédible. Donc ça plutôt cool, c'est un bon système. Il y a aussi un peu de risque dans le système de points, notamment un peu de prise de risque, la possibilité de se dire bon bah j'arrête là parce que je suis pas sûr pour les réponses suivantes et je sécurise pour marquer des points, mais à ce moment-là bah en fait je laisse l'ouverture à l'équipe adverse de continuer de marquer plus de points. Et surtout il y a la manière de révéler les réponses qui en fait c'est des petits cylindres qu'on soulève et qui vont révéler soit un truc rouge soit un truc vert, et c'est une vraie petite mise en scène qui crée vraiment du suspense, parce que ben, si on révèle la couleur redoutée en fait ben, on a 0 points, donc d'où l'histoire de prise de risque, et ben, on risque de faire 0 points si on continue alors qu'on n'est pas sûr. Alors c'est un trio d'auteurs pour lequel j'ai mis des réserves plusieurs fois cette année. J'aime bien Botanique, mais Maui j'avais trouvé ça vraiment nul, Champion j'avais trouvé ça très bof, là c'est mieux. C'est beaucoup mieux, c'est un système très réussi, c'est un système qui promet plus d'émotions que la plupart de leurs jeux, notamment par la petite mise en scène dont je parlais. C'est un jeu dont le contenu des questions est plutôt bien fait. Le souci principal, c'est ce qui va m'amener à la réflexion d'être ravi d'avoir essayé ça en bar à jeu, et voilà, bon, le nom déjà est discutable, mais c'est surtout que le contenu est assez pauvre. Je parlais de ça aussi pour 0 à 100, je crois, du Scorpion Masqué. Si on veut l'acquérir et pouvoir y retourner, ne pas en faire le tour, bah là, il y a un nombre d'appareillages de cartes qui est beaucoup trop faible, et en plus, dans le Grand Kiwiz, parce qu'il y a des jeux comme ça, mais où on se rappelle pas du tout des questions et tout, et du coup c'est rejouable à l'infini quasiment. Mais là, il y a une structure en fait par élimination successive qui nous amène vers la bonne réponse. Ça fait que, de mon côté, je trouve qu'on a plus tendance à se souvenir de la bonne réponse que dans d'autres jeux. Parce qu'elle est là depuis un certain temps, on y pense plusieurs fois, on revient sur la même question, à se dire « Ah mais est-ce que ça pourrait pas être ça ?» etc. Et en plus, la mise en scène qui encore une fois est bonne dans la révélation finale, bah, c'est marquant et du coup ça facilite le fait de se souvenir de la réponse. Donc c'est pas mal, c'est un moment agréable, c'est une bonne idée dans la manière dont le jeu réserve ses réponses. C'est un jeu que je trouve plutôt bon, mais moi ça rejoindra pas ma ludothèque. Clairement, par contre je suis content de l'avoir essayé en bar à jeu. On part vers Yukata cette fois, un site que je cite à peu près tous les mois je crois, et qui est toujours une bonne opportunité à côté de sites plus connus comme Board Game Arena. Alors il a un look un peu vieillot, hein, c'est Franz Wowinkel au pinceau, qui est quand même une sommité de l'illustration allemande, hein. C'est lui je crois qui était aussi derrière les factions une des factions de base de Blue Moon dont je parlais plus tôt. Et quand on voit des trucs comme ça, c'est toujours difficile de savoir dans quoi on se lance, si c'est un jeu qui a été oublié ou quoi, et celui-là s'est avéré une bonne surprise. Et c'est toujours aussi difficile sans regarder BG de se dire de quelle année va être ce jeu, est-ce que c'est 2002, est-ce que c'est 2018, on sait pas. J'avais parlé de Ulm je crois qui m'avait fait un peu cet effet il y a quelques mois. Donc dans Kashgar, on est dans donc sous-titré marchand de la route de la soie, mais je dirais Kashgar, hein, ne m'en voulez pas. C'est une course, il faut essayer d'atteindre 25 points, ça va déclencher la fin de partie. Et pour ça, on va pas se mentir, c'est très très classique. Il va y avoir des contrats qu'on va réaliser en dépensant des bonnes ressources qui vont nous donner des points. Et en plus, il y a la mule, donc une des ressources. C'est souvent juste un prérequis, on va pas la dépenser, mais il faut avoir au moins X mules. Bref, on va essayer de récupérer des ressources pour les dépenser. Parfois, il y a aussi quelques cartes, quelques contrats un peu spéciaux qui vont apporter des points selon les cartes qu'on possède. Et aussi, et c'est plus rigolo, la possibilité peut-être d'aller chercher des contrats face cachée et peut-être de pouvoir les réaliser ou peut-être pas. Mais il n'y a rien quand même de bien original ni de vraiment passionnant, je vous l'avoue. On est vraiment dans quelque chose de très classique. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le but, c'est vraiment plus le système qui entoure tout ça. Alors l'idée, c'est que, je pense que vous comprenez bien avec les visuels, c'est qu'on a 3 colonnes de cartes face visible en fait. Au début de la partie, hein, ça peut évoluer pendant la partie, mais à la base, on en a 3. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours activer la carte sur le dessus de cette pile. Et ensuite, on va la déplacer à l'arrière. Et comme dit, cette pile, en fait, elle est dépilée entre guillemets. Hein, on met les cartes les unes par-dessus les autres pour voir qu'est-ce qui va venir. Il y a des effets plus forts qui vont dire, ben, du coup, tu te défausses de la carte, tu l'enlèves du truc. Ce qui peut être cool parce qu'on épure son deck. Ça pioche, ça colonne. Mais souvent, on va être dans une carte qui va à l'arrière. Et du coup, on va être dans cette espèce de cycle sur 3 pioches différentes. Et surtout, ben, y a plein d'effets qui vont nous permettre de récupérer des nouvelles cartes. 2 pioches différentes, je crois qu'il y a 2 pioches différentes qui ont un peu des cartes plus puissantes ou quoi. Mais du coup, on va pouvoir se dire, bon, ben, j'ai pris telle carte, je vais la mettre à l'arrière de telle ou telle colonne. Et du coup, on a un peu, c'est rigolo, on a un sentiment de triple deck building un petit peu. Mais c'est du deck building avec une structure dans laquelle on n'a pas l'habitude de voir le genre. Parce que c'est du deck building mais dont on voit l'ordre de pioche, et dont on va pouvoir, enfin, il y a cette espèce de triple levier qui est assez intéressant, et on va essayer d'activer celui-ci au bon moment, de faire que ce deck, enfin cette pioche-là va nous servir à ça, et celle-ci plutôt à ça, et celle-ci on va plutôt l'épurer, etc. Ça permet vraiment pas mal de choix intéressants pour essayer de s'en sortir au mieux, d'avoir un rythme qui va dans le sens de ce que demande le jeu pour gagner, pour faire la meilleure course possible. Alors encore une fois, il y a un peu ce côté tout ça pour ça, parce que dans l'absolu c'est juste pour faire des contrats à la con. Mais je vous avoue que cette idée de deck builder qui parvient quand même à surprendre un peu dans sa structure, ça suffit en fait, pour me donner l'envie d'y revenir, et puis pour le présenter à des camarades en disant hey, « Eh regardez, c'est quand même bizarre ce truc, vous avez vu, c'est du deck building alors qu'on dirait pas trop en termes de visuel ou quoi. » Et c'est une curiosité qui me paraît être un peu restée sans suite alors qu'il y a vraiment une idée là-dedans. Si vous avez l'opportunité, que ce soit en ligne ou pas, je vous conseille de l'essayer. Ce sera pas le jeu du siècle, mais ça mérite quand même la découverte. J'ai découvert celui-là la même soirée que Factory Funner et Dictopia, et clairement, alors, il y a Fade Outil, et on sent sa patte là-dedans, même si, ouais, ici, il est accompagné, il est pas tout seul, hein, il est accompagné par Sandra Pietrini. C'est un jeu qui, à la sortie, il y a quelques années, m'avait marqué par ses visuels et les petites références glissées ici et là par David Cochard, notamment, et à ce Macron usurier, qui avait marqué, son rôle lui va comme un gant, il faut bien le dire. Sinon, bon, on est dans de la collection, de la majorité assez classique, on va récupérer des cartes dans une rivière qui vont scorer de différentes manières selon la famille. Les critères de score, c'est assez varié. En général, c'est un genre, la majorité comme ça avec des cartes, où je suis assez sévère parce que je trouve ça assez déjà vu. Là, je vous avoue que ça m'a pas dérangé outre mesure, parce que tout le reste est plutôt chouette. C'est pas un jeu que je vous recommande à tout prix, c'est pas le meilleur de ces trucs pas mal, mais j'ai passé un très bon moment. Il y a aussi ces petits personnages de début. Alors là aussi, on est dans du fail outil plein jus. Mais il y a, du coup, c'est pas des game changers. Mais il y a quand même des petits effets un peu qui sont les bienvenus. Mais surtout, il y a aussi la possibilité de piocher des cartes face cachée. Donc du dessus de la pioche. Et on va pas les rajouter tout de suite, on va les garder face cachée. On les connaît, mais les autres les connaissent pas. Et ben, ça rajoute juste ce qu'il faut d'incertitude et de dynamique et de bluff, de guessing et tout. Donc c'est plutôt cool. C'est un jeu qui est assez interactif, hein, comme aussi beaucoup de jeux de fail outil. Que ce soit par son genre, la majorité est un genre qui est de base assez interactif, mais même certaines cartes aussi qui fonctionnent bien de ce point de vue là. Donc c'est un bon jeu, pas renversant, pas méga original, mais il a le bon équilibre entre son rythme, son espace de choix, le plaisir que j'y ressens, ce qui se passe avec les autres personnes. Donc c'est un jeu auquel je rejouerai avec joie. Vous le savez peut-être, mais moi Can't Stop, surtout en numérique, c'est un de mes jeux préférés de la Terre. Et pourquoi je vous parle de Can't Stop? Parce que de loin, comme ça, quand on voit Mountain Goats avec ses dés, ses pistes et tout, on se dit, ça peut y faire penser. Parce qu'on va mettre des dés ensemble pour progresser sur des pistes. Alors j'ai joué qu'en numérique, encore une fois, et clairement c'est un jeu, je pense, qui gagne à être joué autour d'une même table à plus que deux. Je crois que sur BGG, la configuration recommandée est 4, et je le comprends tout à fait en termes d'interaction. Mais donc ça s'arrête là, la comparaison avec Can't Stop, parce qu'en fait on n'est pas du tout dans du stop ou encore, c'est juste qu'on progresse sur des pistes en lançant des dés, et où il y a beaucoup d'interactions. C'est un jeu en fait qui à la base n'était pas du tout thématisé, je sais plus, ça s'appelait Level X je crois, ou un truc comme ça, ou Level 8. C'est un jeu allemand, mais All Play, du coup, à l'époque, je crois que c'était Board Game Stable que ça s'appelait. Ils ont choisi de faire grimper des chèvres sur les montagnes. Ma foi, pourquoi pas, thématiquement, ça se tient. Les pistes, c'est peut-être ça aussi qui m'a fait penser à Can't Stop, hein, le côté escalade. Les pistes, donc, elles vont de 5 à 10. Mais contrairement à Can't Stop, on va pas devoir faire des paires de dés, on peut les organiser librement. On peut faire 4 dés différents qui vont faire progresser 4 fois, ou bien assembler les 4 dés ensemble, ou 3 et 1, ou 2 et 2, bref. C'est assez flexible de ce point de vue-là, ce qui change complètement vis-à-vis de Can't Stop, hein, au niveau de la contrainte, et ce qui change aussi totalement le fait que dans Can't Stop, le 7 est plus facile à faire. Là, c'est plus forcément le cas. Là, c'est la simple, hein, qui est la plus simple, puisque si on a un 5, on peut y aller, mais on peut aussi faire un 1 et un 4, etc. Ou bien un 2, un 2 et un 1, donc c'est facile de faire 5. Mais du coup, pour le coup, il faut y monter plus de fois, et il rapportera que 5 points. Là où le 10... c'est 10 points si on arrive tout en haut, mais il faudra utiliser plusieurs dés pour y aller, au moins 2, 5, ou un 6 et un 4. Et pour gagner ces points, du coup, il faut arriver en haut, et tant qu'on y est, en fait, si ma chèvre elle est en haut du 5, si je réutilise des 5, je regagne 5 points dès que je les utilise. Mais si une autre personne nous rejoint en haut de la piste, elle nous renvoie en bas. D'où le côté très très interactif, et où à 4 ça marche mieux parce que ça se passe plus souvent, alors que sinon à 2 on peut quand même pas mal camper en haut d'une piste, notamment de la piste 10, c'est un peu moins intéressant. Par rapport à ça, donc il y a ces points là qu'on va gagner, qui vont faire une bonne partie des points, mais il y a aussi des espèces de collections où si on arrive à avoir un jeton de chacune des colonnes, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ben on va gagner des points en plus. Sachant que la première personne qui arrive à le faire gagne 15 points, puis 12, etc, vous savez c'est dégressif, et en plus de ça, ça a un impact sur le tempo et la fin de la partie, puisque si on a fait ça 4 fois, c'est fini, ou bien si X colonnes n'ont plus de jetons, point, c'est fini aussi. Donc bon, pas un jeu qui révolutionne grand chose en termes de sensations, mais ça l'exécute très bien. Moi, c'est des sensations, des sentiments que j'aime bien autour de la table. Malgré tout, je pense que dans la section des pas mal, ça reste un des plus faibles. Je vous avoue que j'ai mis pas mal d'hésitations vu son classicisme à le mettre entre cette partie et la précédente, mais ça me parle bien, donc j'ai choisi de le mettre ici. En général, j'aime plutôt les jeux de course, même si j'en connais pas tant que ça, moi, Formula D, c'est un de mes jeux préférés, sachez-le. Rush and Bash, c'est un jeu de course, mais c'est pas une approche simulationniste ou quoi, ou qui veut simuler une course, c'est plutôt une approche qui va rappeler Mario Kart. Et ça me paraît pas si fréquent que ça non plus. Alors, il y a les circuits de nuit de Formula D, mais c'est pas tellement Mario Kart en vrai, c'est plus pour faire gangsta, je ne sais quoi. Là, il y a vraiment le côté Mario Kart. Alors, le but, comme dans tous les jeux de course, c'est de franchir la ligne d'arrivée avant les autres. Mais il reprend tout le système d'objets du jeu vidéo, avec cette idée de profiter à ce qui est à la dernière personne qui est sur la piste, notamment au niveau du système de prise de cartes qui permet d'avancer, qui permet un peu de catch-up, puisque si on est dernier, on prend des cartes qui sont un peu mieux. Alors, ce qu'il n'y a pas de Mario Kart, c'est le skill. Parce que dans Mario Kart, il y a quand même du skill. Si vous jouez contre quelqu'un qui joue très bien, vous perdrez, peu importe les objets. Le côté aussi maîtrise du circuit, du timing, etc. C'est beaucoup moins présent dans Rush and Bash. C'est un système très simple où je crois qu'on a 3 cartes, on en joue une. Cette carte là, elle va nous dire de combien on avance et le pouvoir qu'on active, donc c'est pas un choix énorme, mais ça suffit en fait, c'est peut-être nécessaire pour retrouver le côté très très immédiat, le côté plus ambiance et crasse qui existe aussi dans Mario Kart, qui mélange les deux. Alors c'est des pouvoirs qui sont pas révolutionnaires mais qui fonctionnent bien, que ce soit la bombe, le missile, le fait d'être obligé de changer de voie à certains moments où on veut pas forcément le faire. Alors le missile, c'est pas Mario Kart, c'est pas, ça permet pas de passer presque premier. Y a aussi le côté véhicule personnalisé qui est plutôt cool, parce que on va pouvoir progresser si on utilise, je crois, des étoiles ou un truc comme ça. Et chaque véhicule a ses petits pouvoirs assez cool à utiliser. Et si on perd toute son énergie, donc si notre voiture sort du circuit ou quoi, le replacement sur la piste, il est pas trop punitif. Il nous ramène juste au dernier checkpoint, un petit peu comme un Mario Kart en fait, quand on est remis sur la piste. Et parfois, ça peut même être un vrai choix de choisir que là je vais perdre mon point pour être remis là, parce que sinon je risque de le faire plus tard et de perdre plus de cases que maintenant. Donc pas un moment exceptionnel, mais je trouve que vraiment l'exercice de style d'adapter Mario Kart sans sa licence, je trouve que Rush and Bash le fait très bien. Ça arrive à capturer une certaine idée, et c'est déjà assez rare dans les adaptations comme ça pour être assez remarquable. Pour finir cette partie, on va repartir à Essen, où j'étais pas, mais heureusement j'avais des potes qui étaient, avec un jeu qui est uniquement à deux, et c'est Cyrus, encore une fois, que je salue, et que je remercie de la découverte, qu'il l'avait essayé, qu'il a aimé, qu'il l'a ramené. Du coup, quand j'étais chez lui, on a enchaîné 2 parties. Alors la première, c'était la partie de découverte qu'il conseille de faire sur je sais plus quelle époque. Et ensuite, on a fait une partie complète qui est sur 3 époques, en fait. On enchaîne les 3 époques. Et je vous avoue que ça m'a paru beaucoup plus intéressant de jouer la partie complète, notamment en termes de punition, entre guillemets, parce que il est possible, dans une partie simple, ou donc dans une manche si on fait la partie complète, qu'il y ait un gros écart de score du fait soit d'une mauvaise main ou d'un mauvais enchaînement. Là finalement le gros écart de score, la partie complète ça fonctionne selon un système de tir à la corde où ça donne un peu plus de suspense parce que à chaque manche on va gagner X points et donc on va tirer la corde vers nous, mais ça va pas être du on va pas prendre en compte finalement le score final de la manche. Le score final de la manche va définir combien de points on gagne, pour faire court. Et en plus de ça, de ce système que moi je préfère en termes de scoring, de suspense et tout, et d'équilibrage, et de ressenti même, de pas se sentir trop largué ou quoi, chaque période possède des spécificités mécaniques. Il y a les années 80, il y a le Moyen-Âge, je crois, et il y a l'Antiquité égyptienne, quelque chose comme ça, qui ont toutes leurs cartes et tout. Donc au-delà de cette structure-là, en fait, chaque manche, c'est assez intéressant, que ce soit dans la création de la main de départ, parce qu'on fait une espèce de draft à deux, et à chaque draft, en fait, à chaque carte qu'on prend, on va aussi en laisser une à notre adversaire et en mettre une dans une pile indépendante. Il y a ce choix à ce moment-là, dans la main qu'on va faire et tout, dans la pile indépendante qu'on va faire. Puis après, à chacun des tours, il y a aussi des choix, puisque chaque tour, ça va être un affrontement entre 2 cartes, sachant que la personne qui va gagner l'affrontement va gagner, en gros, pour faire court, les points de sa carte, et l'adversaire va activer le pouvoir de sa carte. Avant de la défausser. Et comment ça se passe, c'est que la personne qui a gagné le tour précédent va annoncer la couleur en mettant sa carte. Enfin, il n'y a pas de couleur, on s'en fout, je dis annoncer la couleur pour l'expression, on n'est pas dans un jeu de pli. Mais en gros, on va mettre une carte, et l'adversaire va pouvoir y réagir. Et donc choisir si oui ou non il veut gagner, ou s'il veut plutôt appliquer l'effet, à quel point est-ce que si c'est l'adversaire qui applique l'effet, ça va être chiant. Les pouvoirs d'ailleurs, je trouve qu'ils sont assez variés, assez clairs en termes d'iconographie. Là aussi, comme dit, il y a quelques spécificités selon les époques dans lesquelles on joue. Souvent, les pouvoirs sont cool, assez puissants dans certaines circonstances, mais il y a des circonstances où ils sont assez inutiles. Et ça joue sur pas mal de paramètres, puisque ça va être pioché dans la pile dans la pile neutre, ça va être aller chercher des trucs défaussés, ça va être plein de petits trucs sur des cartes qu'a déjà récupéré l'adversaire. En fait, à chaque tour, il y a quand même pas mal de choses à envisager, même si on n'est jamais tombé dans la Disease Paralysis, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc vraiment une très bonne découverte. Si j'en crois le nombre de notes sur BGG, alors soit il y a eu pas beaucoup de visibilité, soit il n'est pas encore sorti à grande échelle. Franchement, c'est un jeu qui le mérite. Les visuels aussi, j'adore les visuels des années 80, on n'est pas loin du très cringe, mais moi, ça me parle. Et pareil, c'est un jeu qui, je sais pas si ça sera le cas, mais il mériterait d'avoir des extensions d'autres époques et tout, qui aurait aussi des spécificités mécaniques et des nouvelles dynamiques. C'est pas simple de se le procurer, je crois qu'il est dispo chez l'éditeur en Allemagne, donc ça va, mais si vous avez l'occasion, donnez-lui sa chance. Il y a les règles en anglais, mais les pouvoirs sont assez simples et tout, on n'a pas eu de soucis en tout cas nous, c'est assez compréhensible. Et si j'en crois sa ludographie BGG, c'est aussi le premier jeu de l'auteur, et franchement chapeau, parce que bah, y en a pas mal qui rêveraient d'une proposition aussi solide dans leur carrière, alors même qu'ils ont déjà fait pas mal de jeux. Voilà, c'est fini avec cette partie des trucs qui étaient plutôt pas mal, les choses plaisantes, qui est comme souvent la plus longue partie un peu de la vidéo, puisque c'est les trucs dans les genres que j'ai appréciés, ou des genres qui me parlent, jusqu'à des trucs qui sont pas loin des tops. Et puisqu'on parle des tops, c'est l'heure d'y aller, il y en aura 3. De manière pas très originale, il y aura un jeu de plis parmi ceux-ci. Donc 3 tops, je vous propose qu'on y aille, et c'est parti. On commence par une énorme surprise, évidemment une bonne surprise. C'est donc Dwarf Romantic, une adaptation de jeu vidéo qui a le même nom, et je suis vraiment content de le retrouver dans ces tops du mois, parce que c'est un jeu où vraiment j'y allais à reculons du fait de son statut d'adaptation, du fait aussi que ce soit un jeu de pose de tuiles qui est pas mon genre préféré, et aussi de toute la communication que j'entendais autour, notamment le côté ultra chillax, qui selon moi en fait, quand on dit ça souvent, c'est très très raté. Ces jeux de société contemplatifs et chill et tranquillou, en général c'est des jeux pas très intéressants, sans intérêt, voire même incohérents, comme Canvas par exemple. Et finalement, ben, on est face à une des toutes meilleures adaptations qui soit, peut-être la meilleure adaptation de jeu vidéo pour moi, parce que ça dose à merveille cet équilibre qu'a déjà le jeu vidéo entre une ambiance bucolique et un vrai challenge, la possibilité vraiment de performer, parce que Dwarf Romantic, ça pousse à relancer les parties pour faire mieux, pour progresser dans la campagne, pour valider des objectifs. Du jeu vidéo, il retranscrit aussi très très bien ce double enjeu un peu entre le score et les objectifs, avec des parties où on va viser l'un plutôt que l'autre, et adapter ainsi sa façon de jouer et la dynamique de la partie. Comme le jeu vidéo aussi, c'est ultra évident, avec notamment des très très faibles contraintes de pause qui évitent de devoir réfléchir un peu aux endroits autorisés pour en fait se concentrer sur les endroits pertinents, et ça le rend aussi très accessible à un très jeune âge, puisqu'il n'y a que les histoires des rails et de l'eau qui a une contrainte. Moi je regrette un petit peu l'aspect vraiment total de la campagne, où on peut tout faire, parce que quand j'ai vu la fiche de campagne avec des espèces d'embranchements, je pensais que ça allait faire un peu comme un roguelite, un Slay the Spire ou un truc comme ça, où en gros ça va être des embranchements où on allait devoir abandonner certaines branches. C'est pas le cas, même si bon, il suffit de s'imposer soi-même cette limite. Alors j'ai pas fini la campagne, peut-être que c'est pas possible pour la finir, mais ça donnerait un peu plus d'identité en fait, une autre saveur à la partie, et également ça pousserait aussi à refaire d'autres campagnes en explorant d'autres embranchements. Aussi du point de vue des côtés négatifs, il y a les tuiles qui sont un petit peu mobiles, c'est un peu fiddly comme disent les Américains, ça peut m'irriter moi, notamment dans un jeu qu'on dit chill, quand ça bouge dans tous les sens, ça me stresse. Il y a aussi les objectifs que j'ai pour l'instant, qui manquent un poil de variété, qui peuvent être un peu répétitifs, et aussi en termes de mise en scène, on perd évidemment par rapport aux jeux vidéo le sound design ultra cool et les animations qui étaient adorables. Donc vraiment super surprise. Pour un avis plus long, plus détaillé et tout, j'en ai parlé dans le dernier épisode des jeux du mois de Proxy Jeux, je vous le mets dans la description, mais clairement, je le redis, énorme surprise. Sûrement la plus grande des surprises de l'année, parce que j'y allais vraiment très très dubitatif, et franchement ouais, que ce soit en termes d'adaptation de jeux vidéo, et puis même en dehors de ça, juste en termes de jeu, je trouve qu'il est vraiment très 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 bon. Je vous ai parlé en septembre dernier de Ptolemy, un jeu de défausse de John Hill, qui est l'auteur du toujours génial Jekyll vs Hyde. Il reste avec Hipparchus, donc le jeu dont je parle ce mois-ci, dans le jeu qui est que à deux, ce qui semble être une de ses marottes, mais cette fois, plutôt qu'un jeu de défausse, il revient dans le jeu de plis. Alors au niveau du thème, on est dans une espèce de complément à Ptolemy, parce qu'on va incarner des astronomes qui vont découvrir, qui vont discuter en tout cas de leur découverte sur la Terre, la Lune et le Soleil, qui sont en fait les trois couleurs de jeu avec chacune 10 cartes. Donc il y a 10 cartes Terre, 10 Lune, 10 Soleil. Alors il complète à ce point Ptolemy, et il y a un truc très très élégant là-dedans. C'est qu'en fait il complète sa boîte quand on les colle l'une à l'autre. Alors c'est super, mais il y a un aspect extrêmement frustrant pour moi, alors je vous partage pour ne pas garder ça pour moi, c'est qu'en fait les deux boîtes, en tout cas dans les versions que j'ai, ne font pas la même épaisseur. Alors si on les pose debout, ça va, Mais moi, j'aurais toujours ce petit truc dans ma tête, ce petit écart entre les deux boîtes, qui va être là sans pouvoir le comprendre, d'autant que la boîte d'Hipparchus aurait complètement pu faire la taille de la boîte de Ptolémée ou inversement. Du côté des visuels, c'est encore Bijou qui est aux commandes, et c'est superbe. J'adore le travail de cet illustrateur ou illustratrice. Et alors, je pointais un peu du doigt en septembre le matériel de Ptolémée, en tout cas de la version que j'ai, parce que je crois qu'il était ressorti dans une autre version. Notamment le tapis et les cartes, parce que c'était vraiment des cartes extrêmement fines. Là, c'est des cartes plutôt classiques. Mais je reprends sur la taille de boîte, incompréhensible, c'est deux fois trop grand, minimum, ça pourrait être beaucoup plus petit, c'est toujours, même si c'est une petite boîte, c'est pas correct. Mais passons ces petites errances éditoriales, parlons du système. Alors déjà, comme Scout ou comme Carreau Combo, quand on prend les cartes qu'on a en main, on n'a pas le droit de les bouger. C'est pas nouveau, on pourrait se dire, c'est bon, on connaît. La différence, c'est qu'Hipparchus, c'est pas un jeu d'escalade, parce que dans Carreau Combo Scout, on fait des combinaisons, etc., mais non, mais c'est bien un jeu de plis. Et j'ai le sentiment, alors contredisez-moi dans les commentaires ou faites des précisions, mais dans le jeu de plis, ça me paraît relativement inédit ce truc qu'on bouge pas les cartes en main. Et pour le coup, ça pourrait être passé pour un gimmick, mais c'est pas juste là pour l'effet de style, c'est vraiment pour se marier à tout le reste du jeu. Parce que au-delà de ce premier twist, le deuxième, c'est que les cartes n'ont aucune valeur. On est dans du suivi obligatoire, il faut suivre à la couleur si possible, sinon on joue ce qu'on veut, mais on n'a pas le droit de jouer la même valeur. Mais je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de valeur. Certes, en fait la valeur de ce qu'on joue, c'est dépendant du nombre de cartes qu'on pose de la couleur indiquée, de 1 à 3. Donc si je pose 2 cartes soleil, c'est comme si j'avais posé 2 soleils. Ces cartes-là, pour les jouer, il faut qu'elles soient adjacentes dans ma main pour pouvoir les jouer. Donc si j'ai un soleil au bout de ma main et un soleil à l'autre bout de ma main, je peux pas les jouer ensemble pour dire que c'est 2 soleils. Je peux que les jouer un soleil chacun. Et on ne peut pas les séparer. C'est-à-dire que si au milieu de ma main j'ai 3 soleils, je peux pas dire je joue 2 soleils et il m'en restera un. Non, je suis obligé de jouer les 3. La seule situation c'est s'il y en a 4, puisqu'on peut jouer que de 1 à 3 cartes. Je sais pas si c'est clair, je pense qu'avec les visuels ça va mieux. Mais toutes ces petites conditions là qui se mélangent, ça crée des situations très cool. Parce que en plus, si on veut suivre à la couleur, donc admettons que quelqu'un a joué 2 soleils, pour suivre il faut jouer une autre valeur. Donc j'ai pas le droit de jouer 2 soleils, je suis obligé de jouer 1 ou 3 soleils. Et si je peux pas suivre, donc si je peux pas jouer 1 ou 3 soleils, je peux jouer 1 à 3 cartes adjacentes, toujours, d'une autre couleur. Donc je peux jouer une lune, 2 lunes, 3 lunes, une terre, 2 terres, 3 terres. Du coup, c'est rigolo parce que j'ai beau avoir des cartes soleil en main, si c'est pas la bonne valeur, ça fait des espèces de coupes, alors même qu'on a encore des cartes de la couleur en main. Donc c'est une dynamique assez particulière. La résolution du pli, là aussi c'est un peu particulier à présenter la première fois, c'est pas hyper évident. Alors si les deux jouent la même couleur, facile, la personne qui a joué le plus de cartes remporte le pli, et quand on gagne un pli, on va pas le mettre face cachée, on va faire une espèce de collection, on va mettre les cartes visibles devant soi. Mais si en face la personne a joué une autre couleur, c'est là que ça se complique, parce que là, alors je vais essayer d'être clair, c'est la personne qui possède le moins de cartes de la couleur qu'elle a joué dans ses plis remportés qui récupère le pli, ok? Donc, si je joue suis avec de la lune, parce que j'ai pas pu suivre avec le soleil, et que la personne a mis 3 soleils, moi 2 lunes, si j'ai moins de lunes que mon adversaire n'a de soleil, c'est moi qui gagne le pli et qui récupère les lunes et les soleils. J'espère que c'est clair. Une fois qu'on a compris, ça va. Mais voilà, les premières fois, c'est un peu bizarre à expliquer. Et enfin, tout ça, ça a du sens par le scoring de fin de manche, parce que en gros, pour chaque couleur, pour chacune des 3 couleurs donc, on va regarder qui a la majorité, sachant que les égalités s'annulent. Et le score d'une couleur, ça va être le nombre de cartes possédées par l'adversaire. Si j'ai 5 soleils et que mon adversaire en a pris 2, j'ai 2 points. Si mon adversaire a 4 lunes et que moi j'en ai 3, il gagne 3 points. Ok ? Donc vous le comprenez, même si on veut être majoritaire, on veut quand même que l'autre y prenne des cartes, parce qu'on veut des points. Mais pas trop. Mais en même temps, suffisamment. Mais en même temps, lui laisser marquer des points, c'est aussi lui redonner la main. Et donc lui laisser l'initiative. Et parfois, il y a une coupe précédente qui n'en est plus. Parce que l'arc de la main, et ben, comme dans Carreau Combo ou quoi, ben, on va rassembler des cartes qui n'étaient pas rassemblées au début de la partie. Et du coup, certaines cartes que je pouvais pas jouer plus tôt, finalement, elles sont jouables. Alors le thème se ressent moins que dans Ptolémée, j'avais bien aimé dans Ptolémée la répartition des cartes qui était très thématique par rapport aux planètes, mais par contre du côté des sensations de jeu c'est beaucoup beaucoup plus intéressant, il y a bien plus l'impression d'un équilibre à contrôler, d'avoir du choix, et il y a vraiment ce sentiment que chaque élément du jeu ça semble à sa place pour proposer un tout, alors que pris indépendamment on dirait vraiment des gimmicks assemblés les uns aux autres, et en ce sens là, le génie du thème en moins quand même, je trouve que ça rappelle vachement la maîtrise qu'il avait montré sur Jekyll vs Hyde où vraiment tout était à sa place de manière incroyable. Et à ça, vous retirez évidemment quelques cartes retirées en début de partie pour éviter la connaissance complète, qui est un petit problème dans les jeux à deux. Moi, j'aime pas quand on peut tout savoir, d'autant que là, les cartes, on les révèle progressivement et elles restent visibles dans les collections, donc on pourrait tout calculer, même si, évidemment, y a le hasard de la répartition dans la main qui joue et qui est important. Mais malgré tout, la répartition des cartes, en fait, le fait qu'il y ait 3 couleurs chacune de 10, ça rend le truc facile à compter. Le fait que ce soit progressivement révélé, ça permet aussi du contrôle et en tout cas des hypothèses. Du coup, j'ai parlé des petites erreurs éditoriales. Il y a aussi un petit truc, c'est que pour gagner le jeu, il faut gagner deux manches. Bon, voilà. On gagne une manche, il y en a plus de points que l'autre. C'est pas ouf en termes de climax et d'émotion. Mais si on passe au-delà de ça, franchement, super recommandation. Alors, c'est pas facile à trouver. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. En espérant peut-être qu'une édition future soit un peu dans une plus petite boîte. Mais sinon, c'est vraiment très facile à émuler. Vous prenez 10 cartes, 3 couleurs différentes. Et c'est parti. Et vraiment, super découverte de ce mois-ci. On va finir avec un jeu solo, qui est autrement plus réussi, vous le devinez, que les deux qui étaient dans la partie des déceptions. Alors David Thompson et Trevor Benjamin, c'est des auteurs que j'aime bien, du peu que je connais d'eux. Je trouve qu'ils ont une assez forte identité d'auteur. Alors ici, ils sont rejoints par Roger Tankersley. C'est un thème fort, hein, la lutte contre Franco, c'est un thème qui me parle beaucoup, historiquement, politiquement, et donc on doit ici remplir des missions face aux franquistes. Et pour ça, on va envoyer nos résistants, nos résistantes, pour essayer de faire le meilleur score possible à la fin. Vous le savez, l'histoire de score, c'est rarement le système que je préfère, que ce soit en solo ou en coop, puisque c'est un jeu solo, mais vous pouvez jouer à plusieurs, hein, si vous mettez plusieurs derrière la table. Mais alors ici, il y a un score, mais je trouve qu'il est quand même surtout question de victoire ou de défaite. Et la victoire, elle a différents niveaux, et finalement, il y en a assez peu qui portent le nom de victoire, comme pour montrer un peu la machine infernale contre laquelle on se bat, et le peu de chance qu'on a d'arriver à une quelconque victoire, et que tout est... un peu moins une défaite qu'avant peut-être. Résistance, c'est un jeu assez difficile qui peut même être assez punitif. Il va offrir pas mal de conditions de défaite, que ce soit des espions, que ce soit des civils morts, ce genre de trucs. Et ça va forcer le sacrifice des personnes qui vont avoir de l'identité. Ça va aussi multiplier les effets négatifs de la part des soldats adverses ou de la part de certaines missions. Mais tout ça, encore une fois, c'est super cohérent et c'est porté vraiment par le propos du jeu. Parce que au-delà du système, qui est un système qui fonctionne très bien avec différentes cartes qu'on peut placer à différents endroits, enfin à deux endroits différents, donc les cartes de résistants ou résistantes, pour bénéficier d'effets différents selon s'ils sont révélés ou s'ils restent cachés. Il y a aussi des ennemis qui eux aussi ont des capacités si on les laisse vivre ou quand on va aller sur leur mission, la mission dont ils font partie. Du coup, on va devoir un peu prioriser ce qu'on veut éliminer en fonction de la situation, sachant que sauf exception, s'il y a certains ennemis, bah en fait les missions on peut les remplir sans vaincre les ennemis, mais en général c'est préférable parce que sinon il y a pas mal d'effets des ennemis qui vont se déclencher et qu'on veut pas trop subir, sinon ça risque de nous mener à la défaite. Chaque tour vraiment il y a plein de petits choix à différents niveaux, que ce soit sur la manière de bien utiliser sa main, sur l'ordre dans lequel on va l'utiliser, si on utilise un personnage lors de la phase de planification ou lors de la phase de combat. Tout ça, il y a un équilibre que j'aime plutôt, avec aussi la bonne dose de hasard. Vraiment déjà, rien que d'un point de vue du système, c'est très solide et très très recommandable. Mais ce qui le fait atteindre un peu le statut de jeu du mois et rejoindre Fini parmi mes expériences solo qui sont les plus marquantes, c'est la narration de Résistance. C'est la manière dont il arrive à raconter ce qui se passe. Le lien très fort entre le thème et la manière dont il est mis en jeu et dont il est mis en scène. Dans le dernier dossier de Proxy Jeu, là aussi je vous mets tout ça en description, j'ai développé, on parlait de l'immersion, donc j'ai développé un peu une chronique sur la force du nom, notamment qui m'a été inspiré par mes parties de Résistance, la force du nom, la force du mot, notamment donc à travers l'exemple de ce jeu-là, et comment tout ça peut procurer des émotions fortes et favoriser l'immersion. Évidemment, je vous invite à aller l'écouter pour plus de détails et pour écouter les autres chroniques sur le sujet, mais en gros, le fait de nommer ces camarades-là par leur prénom, le lien à ces illustrations très très réussies, les illustrations des civils, qui peuvent nous faire perdre s'il y a trop de pertes civiles. Tout ça, ça fait que pendant la partie, c'est super dur de choisir d'envoyer les résistants et résistantes à visage ouvert. C'est, en général, des meilleurs effets, des effets plus puissants, mais ça revient à les perdre au combat. Donc à perdre leurs effets, qui étaient bien, même leurs effets cachés, et surtout aussi à les voir partir dans la pile d'exil, qui, plus ou moins, quand c'est l'exil, c'est toujours une disparition sans retour, sauf exception. Et à la fin de la partie, moi je me retrouve, et c'est assez rare, à regarder cette pile d'exil, à dire au revoir aux camarades, ceux qui sont partis, ceux qui sont décédés, et ce, quel que soit le résultat. Et quel que soit le résultat, même quand c'est une réussite relative, on voit en fait juste tout ça comme un grand gâchis, quand bien même, effectivement, la cause elle est belle, mais qu'est-ce que ça nous a coûté ? Il y a Perco dans Canard PC, dans le hors-série, sur les jeux de société, qui donnait l'exemple de Célia, qui est une petite gamine à vélo, et lui, il n'arrivait pas à se résoudre, à l'envoyer révéler face aux franquistes, quelle que soit la capacité qu'elle pouvait avoir, et à quel point elle pouvait être utile. Et selon votre situation, selon votre vécu, selon les souvenirs auxquels peut faire appel un prénom, une illustration, bah ça peut rendre la chose encore plus difficile et plus éprouvante. Ces choix-là, pour nous immerger et pour nous faire nous identifier à ce groupe de résistance, c'est des camarades qui deviennent les nôtres. Et c'est des choix qu'on ressent en cours de partie, et pour moi, après la partie. Je fais des choix qui sont durs pendant, et je m'y confronte à la fin de la partie. Et c'est des visages qui sont même capables, peut-être, selon notre feeling et notre sensibilité, de nous hanter à plus long terme, et de se dire, purée, c'est des amis que j'ai perdus, quoi. Je sais que moi, rarement un jeu... a pu me rendre à ce point triste pour les personnes perdues, justement. Rarement j'ai ressenti ce genre d'émotion à la fin d'une partie. Le sentiment est du désespoir, de la tristesse, et aussi de l'inutilité, qui est sans doute en fait, pour le coup, je disais, on peut y jouer à plusieurs si on veut, mais le côté solo, et le fait qu'on soit seul face aux victimes que finalement on a envoyées à l'abattoir, ça renforce, je pense, ce sentiment-là. Donc c'est vraiment un très très grand jeu de cette année. Moi j'ai hâte d'essayer Witchcraft, qui est un jeu des mêmes auteurs, hein, et qui reprend son système, avec je crois quelques adaptations thématiques, mais l'univers c'est plus le même, c'est plus la résistance face à Franco, c'est une sororité de sorcières dans une époque où la mode c'était de les chasser et si possible de les brûler. J'ai pas encore joué, je vous ferai sûrement un retour dessus. Je sais pas trop si j'arriverai à être autant touché par ces personnages, son ancrage historique, je reste assez curieux. Alors j'ai pas joué à tant de jeux solo sortis de cette année, mais je vous avoue que s'il devait en rester qu'un, je pense que ce serait clairement celui-ci, vraiment, ne passez pas à côté. Voilà, la vidéo est donc terminée, comme d'habitude on attaque la conclusion. Tout d'abord, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous invite une fois de plus à partager, à commenter et à mettre les petits pouces qui vont bien. N'hésitez pas à parler de vos découvertes à vous, et peut-être qu'à rythmer votre année 2023, même si pour ça, il devrait y avoir dans les semaines à venir une vidéo qui sera plus pertinente. Je remercie comme d'habitude toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de faire des parties, que ce soit en IRL, en vrai sur table ou en numérique. Merci, c'est grâce à vous que ces vidéos sont alimentées, hein, sauf pour les jeux solo. Du coup, on devrait se retrouver donc environ un début février pour la prochaine vidéo du bilan mensuel avec les jeux découverts en janvier. Et également du côté des vidéos, alors il y a des projets, je sais pas si j'arriverai tous à les mener. Il y a évidemment un petit bilan 2023 qui prendra une autre forme que le bilan 2022 de l'an dernier. J'ai aussi envie de faire un petit retour sur 2022 avec des choses que j'ai découvertes depuis. Bref, pas mal de choses. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vous. À plus. Ciao !